Algrimur Helgason, bonjour.
Bonjour.
Faisons d'abord connaissance. Vous avez 54 ans.
Ouais.
Vous êtes originaire de Reykjavik, une ville où vous avez d'abord entrepris des études artistiques avant de rejoindre l'Académie des Beaux-Arts de Munich. Une formation qui a conforté votre goût pour la peinture et le dessin. Nous sommes alors dans les années 80, et c'est au début des années 90 que vous commencez une carrière d'écrivain avec un premier roman, Elia.
Ça s'appelle Hetla.
Hetla.
En islandais.
Oui. Hetla, qui raconte les
aventures.
Un petit village. Qui raconte les aventures d'une adolescente durant l'été de ses 14 ans. Par la suite, vous allez écrire d'autres romans, dont le plus célèbre, 101 Reykjavik, qui a été le premier de vos livres à être traduit en français et qui a été adapté au cinéma. Entre ce premier ouvrage, Hetla, publié en 1990, et La femme à 1000 degrés, dont nous allons parler aujourd'hui, il y a un point commun. Le personnage principal est une femme. Pourquoi préférez-vous les héroïnes aux héros? Et comment est née dans votre esprit Hera, la femme à 1000 degrés?
Voilà. Je suis très, très ravi d'être ici à Bordeaux. C'est la première fois pour moi. Très impressionnante. Voilà, pourquoi une femme comme héroïne? J'ai écrit beaucoup de livres sur les hommes. Donc, mon premier deux livres... Les deux premiers livres étaient sur les femmes, avec une femme comme caractère principal. Mais après ça, j'ai écrit que des livres
sur les hommes.
Et donc, je pense que peut-être qu'il y aura temps pour écrire un féministe, un roman féministe. Et puis, j'ai rencontré ce vieux femme... qui habitait dans un garage à Reykjavik. C'est un peu par hasard, parce que mon ex-femme, elle est politicienne, elle travaille pour le social-démocrate, le Parti Socialiste en Islande.
Oui.
Et une fois, il y a 6 ans, j'ai voulu l'aider dans une Krosnik apparatu.
Dans une campagne électorale.
Oui. Dans une campagne électorale. Et je suis allé au headquarters du Parti Socialiste à Reykjavik. Ils ont donné une liste avec les numéros de téléphone à Reykjavik. Et ils m'ont ringé à ces numéros.
Ils m'ont demandé de téléphoner à ces numéros.
Oui. Et faire des gens à...
Essayer de convaincre les gens de voter pour eux.
Au numéro 3 à cette liste, c'est une femme qui vit à Bílskur.
Et le numéro 3 de cette liste était une vieille femme qui vivait dans un garage.
Et au début, il me disait que non, je ne vais pas voter pour... voter les connards communistes ou quelque chose comme ça.
Oui.
Donc, mais elle était aussi... intéressante, intelligente, plein d'humour. Donc je continue de parler avec elle. Et j'ai tout oublié la campagne électorale. Je parle que avec elle toute la soirée. Elle m'a très très impressionné. Elle m'a raconté toute sur sa vie dans le garage où elle a habité pendant 18 ans. Donc, c'est 10 ans dans mon roman, parce que j'ai trouvé que c'était trop outrelecht.
C'était absolument incroyable.
Oui.
Donc, et après cette conversation, je pensais peut-être que je peux écrire un roman sur une vieille dame qui habite dans un garage, parce qu'elle était toujours sur l'Internet. Elle va écrire un email.
Toujours à envoyer des emails.
Elle était sympathique avec les gens autour de Matlanheim.
Elle maintenait des relations avec des gens partout dans le monde.
Donc elle était très active, mais un peu dehors la société, cachée, comme ça. Donc, il y avait une situation intéressante pour moi. Et, 2 ans après, j'ai fini mon roman que j'étais en train d'écrire, qui va sortir l'année prochaine, ici en France. Je me suis dit que oui, peut-être je voudrais bien aller dans le garage pour faire visite à ce vieil homme, mais j'ai découvert qu'elle est une Mardawen, elle est décédée. Oui. Thymir.
Malheureusement.
Malheureusement. En ég fann út, ég uppgötvaði að hún hafði skrifað sína eigin ævisögu.
Je me suis rendu compte qu'elle avait écrit sa propre autobiographie.
Sem kom út árið 1983.
Qui est sorti en 1983.
Og að afi hennar var fyrsti forseti Íslands.
Et son grand-père était le premier président de l'Islande.
Og pappi hennar barðist með nazistum í seinna stríði.
Et son père a combattu du côté des nazis durant la Seconde Guerre mondiale.
Þannig að ég uppgötvaði svona rosalega mikið efni fyrir skáldsögu.
Et c'est comme ça que j'ai découvert toutes ces informations qui pouvaient servir à un roman.
En ég spurði sjálf mig, má ég skrifa svona konu sem var til í raun og veru?
Je me suis posé la question de savoir si j'avais le droit d'écrire sur une femme qui a vraiment existé. Et je me suis dit oui si je change son nom et si je change un peu l'histoire.
Donc j'ai changé tous les noms dans sa vie, sauf le nom de présidente. Ça ne sert à rien de
mentir. Tout le monde reconnaît.
Ouais. Donc ça, c'est l'histoire. Pourquoi j'écris ce roman? C'est un mélange de fact et fiction, blend of skaldskap og raunveruleika.
C'est un mélange de réalité et de fiction.
Ouais.
Alors, pour les lecteurs, ou en tout cas le public qui n'aurait pas connaissance de l'histoire de ce personnage, il faut quand même resituer qui est cette femme à 1000 degrés et pourquoi ce titre. Alors, la femme à 1000 degrés, c'est en fait donc une vieille femme malade. Elle souffre d'un cancer, elle est en phase terminale et elle va bientôt mourir. Elle arrive au terme de sa vie et ce point de départ, enfin cette situation est en fait le point de départ d'un retour en arrière dans lequel, à travers l'histoire de cette femme, vont se mêler l'histoire de l'Islande et l'histoire de l'Europe dans une période historique bien précise qui est la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y a une période avant, pendant et après. Et avec quand même une originalité et un ton tout à fait particulier, on peut dire que Algrimur a choisi de ne pas s'apitoyer du tout sur cette femme, puisque même dans la situation la plus tragique qu'elle peut connaître, donc au terme de sa vie, on va sentir derrière cette femme ce qu'on appellerait chez nous un sacré tempérament, une très forte personnalité. Et pour vous donner une petite idée de cette force de caractère, non seulement donc du fond de son garage, cette vieille dame est connectée via Internet à des tas de réseaux d'amis, de gens qu'elle peut avoir, un réseau qu'elle peut avoir constitué aux quatre coins du monde, mais elle fume abondamment, elle a donc des réserves de cigarettes, alors que donc on peut penser qu'elle ne devrait pas aggraver son cas, mais là vraiment elle n'est pas du tout dans cet état d'esprit, elle veut vraiment profiter de la vie au maximum. Et alors ce qui va être le signe le plus intriguant, c'est qu'elle tient dans sa main ce qu'elle présente comme un petit cœur et qui est en fait une grenade qui ne demande qu'à être dégoupillée. Et cette grenade lui a été laissée par son père quand elle l'a vue pour la dernière fois, puisque la fille et le père vont être séparés par la guerre. Et le père lui confie cette grenade en lui disant « Si un jour tu es en danger, je vais te montrer comment t'en servir. Voilà comment on fait pour la dégoupiller. Tu la lances très loin et tu cours dans l'autre sens. Et tu verras, tu pourras au moins te sortir d'une situation périlleuse. » Donc, Cette grenade n'a jamais été dégoupillée et elle va vraiment la conserver jusqu'à la fin de sa vie, puisque dans les dernières pages du livre, le corps de la dame est incinéré, mais les dernières pages du livre sont, si je puis dire, consacrées au devenir de cette grenade, puisqu'elle va être prise en charge par le service des explosifs de la ville de Reykjavik, emmenée dans un endroit désertique, et là, on va faire exploser la grenade qui marque en fait la fin du livre. Et donc, je dirais que tout le côté à la fois... l'originalité, de mon point de vue, de la démarche de l'auteur, c'est à la fois, on peut dire, cet humour noir, ce ton grinçant, et en même temps, cette belle revanche sur la vie que constitue l'histoire de cette femme jusqu'au terme de sa vie. Alors, votre livre, c'est aussi une invitation donc, au voyage à travers le temps et à travers l'espace, puisque là, l'histoire de l'Islande se mêle étroitement avec l'histoire de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, et avec Hera, donc la femme aux 1000 degrés, la guerre est en quelque sorte le second personnage principal du roman. Vous dénoncez avec une force extraordinaire l'inhumanité et la barbarie de la guerre, de deux façons. D'une part, à travers les yeux de votre héroïne, Hera, et d'autre part, à travers le regard de son père, islandais, engagé dans la Waffen-SS. Ce qui donne sa puissance, en fait, à votre plaidoyer, c'est, de mon point de vue, votre compréhension des sentiments et des comportements humains. Et dans le cas de Hera, la guerre prend la forme d'une grande aventure, d'une sorte de parcours initiatique pour sortir de l'adolescence et cheminer vers l'âge adulte. Les réflexions de Hera renvoient, de mon point de vue, à celles d'Imre Kerkes, écrivain hongrois, prix Nobel de littérature, qui raconte sa déportation au même âge, l'âge de l'adolescence, au même âge que votre héroïne. Et il en parle dans ces termes. « Malgré la réflexion, la raison, le discernement, le bon sens, je ne pouvais pas méconnaître la voix d'une espèce de désir sourd qui s'était faufilé en moi comme honteuse d'être si insensée et pourtant de plus en plus obstinée. » Je voulais vivre encore un peu dans ce beau camp de concentration. Donc, avec Hera, on se trouve là aussi on va se retrouver donc au milieu de la guerre, mais en vivant finalement cette situation avec les yeux d'une adolescente. Et dans le cas du père de Hera, qui a donc été fait prisonnier sous l'uniforme allemand par l'armée rouge à la fin de la guerre. Le père donc de l'héroïne évoque ainsi l'atmosphère qui règne aux abords du camp d'extermination de Treblinka. C'était vraiment étrange, mais je regardais à l'horizon, par-dessus la cime verte des arbres, et soudain, je fus empli de remords envers les bois. Nous, les hommes, avons laissé une tache noire à la surface de l'histoire de la terre et les avons blessés, ces bons arbres, avec cette odeur, avec cette horreur, que personne n'aurait dû voir de haut. C'était très étrange, mais j'étais pétri de culpabilité envers la nature. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que la guerre transforme les hommes, et si oui, comment ?
Já, stríðið er svona prófraun fyrir hvern mann.
Oui, la guerre est une forme d'examen pour chaque homme.
Þannig að stríð lætur menn fara verða öfgafyllri. Extrême.
La guerre pousse les hommes à des comportements extrêmes.
Þannig að þeir sem eru svolítið góðir, þeir verða mjög góðir, þeir sem eru svolítið vondir, verða mjög vondir.
Car ceux qui ont des tendances bonnes vont devenir très bons et ceux qui ont des tendances mauvaises vont devenir très mauvais.
Þannig að það verður allt svona öfgafyllra.
C'est comme ça qu'on obtient un résultat assez manichéen.
Var búin að ákveða fyrir löngu síðan að skrifa aldrei seinni heimsstyrjöldina og engan svona nazi roman.
J'avais décidé il y a très longtemps de ne jamais écrire sur la Seconde Guerre mondiale et sur les nazis.
Af því að það var búið að skrifa svo mikið.
Car on en avait écrit tellement.
Mm-hmm. En þegar ég komst í kynni við þessa konu, þá var það nauðsynlegt. Stríðið var svo mikill hluti af hennar lífi.
Mais lorsque j'ai rencontré cette femme, ça s'est avéré nécessaire parce que la guerre était une part si importante de sa vie.
Þannig að ég reyndi þá að allavega að skrifa öðruvísi stríðið eldur en áður.
Donc j'ai décidé de d'écrire d'une manière peut-être différente de la façon dont ça avait été fait auparavant.
Og auðvitað var það aðeins auðveldara þegar maður var með konu sem aðal í aðalhlutverkinu.
Évidemment, c'était un peu plus facile quand on avait une femme en personnage principal.
Það var kannski samt þegar ég var að skrifa bókina var það kannski mest spennandi fyrir mér að skrifa seinna stríðið.
Mais lorsque je me suis mis à l'écriture de ce roman, c'est peut-être le moment le plus excitant, le plus important de l'écriture que d'écrire sur la Seconde Guerre mondiale.
Af því þetta var svona mikil áskorun að skrifa stríði sem margir eru búin að skrifa og reyna að gera það öðruvísi.
Car c'était un tel défi d'essayer de d'écrire sur un sujet aussi qui avait été autant traité et de le faire différemment.
Þannig að við getum sagt að stríðið sé líka prófraun fyrir rithöfunda.
On peut donc dire que la guerre est une forme d'examen pour l'écrivain aussi.
Og ef þú ert smá góður rithöfundur þá held ég að getur orðið betri ef þú skrifaðir stríðið.
C'est ainsi que je pense que si on est un petit peu un écrivain un petit peu bon, on peut devenir un très bon écrivain en écrivant sur la guerre.
Comment avez-vous documenté en quelque sorte votre travail puisque l'Islande fait partie quand même des pays européens qui n'ont pas connu l'occupation d'une armée étrangère hein,
Oui, on a connu.
Les Anglais.
Au début, il y avait des Anglais puis les Américains.
Et les Américains.
Ouais.
D'accord.
Donc on était occupé, mais c'est une très bonne occupation, on peut dire.
Oui, disons que le motif avancé pour cette occupation, c'était de vous protéger.
Oui, oui.
Voilà, c'est ça. Alors, votre livre, c'est aussi un chant d'amour hein, pour votre pays, l'Islande. L'Islande que vous décrivez comme un royaume du silence. Alors, qu'est-ce qui explique et sur quoi se fonde ce que vous appelez ce silence sacré ?
Það af því að þegar ég var alast upp, þá ólst ég upp við að allt sem skipti máli var ekki talað
C'est parce que lorsque j'ai grandi, tout ce qui était important, on n'en parlait pas.
Þetta var svona íslensk hefð.
C'était une tradition islandaise.
Og ég veit ekki alveg hvaðan hún kemur.
Je ne sais pas vraiment où est l'origine.
En við vorum sveitafólk í 1000 ár. Það var langt á milli bæja, langt frá einu bæja til næsta bæjar. Fólk var bara svolítið einangrað.
Mais nous étions une population très rurale. Les villages étaient très éloignés les uns des autres. On était très, très solitaires.
Maður hafði ekkit mikið að tala.
En gros, on n'avait pas grand-chose à se dire.
Svo þessi hefð sem heldur áfram inn í 20. öldina.
Et cette tradition s'est poursuivie jusqu'au 20e siècle.
Það mjög merkileg frásögn sem ég las daginn.
Il y a un important titre d'article que j'ai lu l'autre jour.
Þýsk kona kom til Íslands árið 1933.
Une femme allemande est venue en Islande en 1933.
Og bjó á prestsetri á Snæfellsnesi eða vestari hluta Íslands.
Elle vivait dans un
prestsetur
dans un
sem kirkja er
ouais,
dans une ferme
dans une ferme religieuse du côté de Snæfellsnes sur la péninsule.
Og einu sinni í mánuði kom allt fólkið úr sveitinni til að fara í messu í kirkjunni og kom í kaffi á bænum á eftir.
Et une fois par mois, tous les habitants de la région se réunissaient à l'église et ensuite pour prendre un café ensemble.
En hún tók eftir því að fólki sagði ekki neitt þegar var að drekka kaffi, það bara þagði.
Et elle remarqua que les gens ne n'échangeaient pas un mot en buvant leur café, ils se tenaient là silencieux.
Svona Íslendingar voru svona feimnir.
Les Islandais étaient très timides.
En svo í minni kynslu breyttist þetta allt af því við okkar kynslu ferðaðist til Ameríku, ferðaðist til Evrópu, kynntist öðrum þjóðum.
Mais avec ma génération, tout a changé, car ma génération a beaucoup voyagé jusqu'en Amérique, jusqu'en Europe.
Og svo kom útvarp, sjónvarp, internet, allir fóru að tala, tala, tala og í dag allir að tala, tala á Íslandi.
Puis la radio est venue, et la télévision, et internet, et tout le monde s'est mis à parler, 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 et maintenant on ne fait que ça.
Donc le silence islandais, c'est...
C'est terminé.
C'est terminé.
Alors, il y a quand même aussi dans votre livre un épisode qui est quand même frappant. Alors, est-ce que c'est lié à cette recherche du silence ou est-ce que ça correspond à des comportements qu'on pouvait observer autrefois ? C'est donc lorsque la mère de Hera accouche, elle va repartir dans sa famille qui habite dans une petite île et le père va disparaître pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, il va dire « Ohé, je suis là », et la vie du couple et de la famille va reprendre son cours comme si de rien n'était. Alors, est-ce que là, c'est quelque chose que vous avez imaginé, ou est-ce que ça peut correspondre à des choses qu'on a pu observer peut-être au 19e siècle ou dans des périodes plus anciennes ?
C'est complètement inventé.
Fólk spyr mig alltaf hvað mikið skáldað í bókinu og hvað mikið raunveruleikinn.
On me demande souvent quelle est la part de réel et quelle est la part d'imagination dans ce roman.
Og ég segi alltaf svona 50-50.
Et je dis toujours à peu près 50-50.
Og þá kemur alltaf spurningin, en hvað skáldað og hvað raunverulegt?
Puis on me demande, mais qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est inventé?
Og þannig að mér datt í hug að gefa út nýja útgáfu með svona gulum síðum og hvítum síðum.
C'est pourquoi j'ai eu l'idée peut-être de faire une édition un jour avec des pages jaunes et des pages blanches.
En Íslendingar eru mjög forvitnir og vilja taka skáldskap svolítið bókstaflega.
Mais les Islandais sont des gens très curieux et ils veulent prendre l'imagination au pied de la lettre.
Og trúa öllu sem stendur í bókum.
Et croire tout ce qu'on raconte dans les livres.
Þess vegna skrifaði ég svona formóla að biðja fólk að rugla þessu ekki saman við raunverulegu persónuna.
C'est pourquoi j'ai écrit cette petite note avant le livre, avant le roman, pour expliquer qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte et que ce ne sont que des inspirations.
Af því að hún, konan sem ég talaði við í síma, hún átti erfitt líf og mjög dramatist.
Car la femme que j'ai eu au téléphone, elle a eu une vie très difficile, très dramatique.
En þessi kona í bókinni ennþá erfiðara líf.
Mais cette femme dans le livre a une vie encore plus dure.
Alors il y a en tout cas une chose qui n'est pas imaginaire, c'est le ressentiment qu'éprouvent les Islandais à l'égard des Danois. Alors je rappelle que jusqu'en 1944, l'Islande est une colonie qui appartient donc au Danemark et qu'à partir donc de 1944, l'Islande devient un État indépendant. L'Islande acquiert son indépendance. Alors, est-ce que, alors, il y a tout un passage du livre où on fait allusion à la manière dont les Danois traitent et considèrent les Islandais, naturellement comme inférieurs, hein, comme tout peuple colonisé. Mais est-ce que ce ressentiment des Islandais à l'égard des Danois existe encore aujourd'hui ou est-ce que c'est quelque chose qui est derrière maintenant?
On dit que c'est derrière, mais c'est toujours vivant, quelque chose est toujours là. On a cette love-hate relationship.
Une relation d'amour-haine.
Amour-haine,
oui.
Contre les Danois. Et, par exemple, on a jamais... Vi höfum aldrei unnið landsleik í fótbolta á móti Dönum.
On a jamais gagné à la Ligue nationale au football contre les Danois. Car nous croyons sincèrement qu'on ne peut pas. On est toujours un peu le vilain petit canard lorsqu'on rencontre les Danois.
Og það ennþá til ungt fólk á Íslandi sem hatar Dani eins og til dæmis bróðir minn.
Il y a toujours des jeunes en Islande qui détestent toujours les Danois, comme mon petit frère qui a 4 ans de moins que moi.
Mm-hmm.
Oui, juste pour confirmer, Lorsque j'ai été invité à l'Université d'Islande, les collègues islandais m'ont emmené au restaurant universitaire pour manger. Il y avait le choix entre un porc danois et un poisson islandais. Et heureusement, j'ai fait le bon choix, j'ai choisi le poisson islandais. Et là, j'ai eu droit à un grand sourire. Mais je pense qu'ils ont dit « Ouf, il a fait le bon choix ». Alors, j'avais peut-être une dernière question.
Pour nous, oui. Danemark est un peu comme notre mère. Mm. Quand on était jeune, une fois, on vivait chez maman, et ça très heureux et bon.
À une époque, on vivait chez maman, et tout était bien et facile.
Et puis, nous devions aller à la maison et être seuls.
Mais ensuite, on a dû déménager parce qu'on voulait être indépendant.
En þá voru Danir alltaf að segja við okkur, þið verðið að passa ykkur, þú mátt ekki reykja svona mikið, þú voru að koma snemma heim.
Mais les Danois nous disaient toujours de prendre soin de nous, de pas fumer autant, de rentrer tôt.
Og við, þetta var svolítið þreytandi fyrir okkur Íslendinga.
Ce qui était assez fatigant pour nous, les Islandais.
Og fyrir hrunið þá sérstaklega var þetta mjög... erfitt því að Danir voru alltaf að segja þið eigið ekki svona mikla peninga þetta bara rugl, þetta á allt eftir að hrynja
Surtout juste avant la crise moment auquel les Danois nous disaient toujours vous n'avez pas tant d'argent que ça tout va s'effondrer
Og svo þegar hrunið kom þá var þetta erfiðast að viðurkenna að Danir höfðu haft rétt fyrir sér
Évidemment, lorsque c'est arrivé, ça a été le plus dur de réaliser que les Danois avaient raison.
Alors la crise, parlons-en. On va maintenant donc aborder un petit peu votre approche de cette période récente. Et là, votre jugement est sans appel. Vous condamnez à la fois les mâles et les libéraux. Et la métaphore que vous utilisez est celle du viol. Alors, je vais en lire un extrait. « Nous avons tout essayé avec les mâles. Les hommes se sont révélés femelles, s'offrant jambes ouvertes à leurs invités, hommes et femmes, le cul à l'air, leur cul libéral, qui s'avéra être le pire cauchemar de l'histoire de l'Islande, car n'y entraient ni autochtones, ni étrangers. Ces derniers baignaient dans une tourbe d'emprunt, aspirés par un tourbillon de tourments, essuyant des coups de boutoir jusqu'à ce que le trou de la nation soit devenu si large que s'en déverse un déluge à l'odeur de sueur et à la sensation de nausée. Il s'en échappe encore bien des immondices. Ah oui, il était effectivement temps de nous trouver une dame de fer décharmée, à la bouche d'acier et aux lèvres cuivrées, qui ne comprend aucune langue et qui n'en parle pas plus. Il y a eu assez de prostitution comme ça chez les Islandais. Alors, est-ce que... Pour détendre un petit peu l'atmosphère, depuis la situation de l'Islande s'est améliorée.
Já, við okkur hefur svona gengið ágætlega að komast út úr krísunni.
Oui, on s'est pas trop mal débrouillé pour essayer de sortir de la crise.
En ástandið á Íslandi er samt svolítið svona falskt ástand.
Mais l'état est encore assez précaire en Islande.
Það eru einhverju peningar fastir inn á Íslandi sem útlendingar eiga þannig að enginn má skipta peningum yfir í aðra myntir það svona gjaldeyris höft
Il y a
C'est difficile
C'est un petit peu compliqué
Économie On parle de
L'économie, oui
Donc c'est un peu difficile Mais il y a beaucoup de ces tranchées qui ont déjà ont toujours l'argent en Islande
Oui
C'est leur argent
En Islande,
et,
oui
Et si ça sort Islande Toute l'économie va rigner
C'est-à-dire qu'on ne peut pas...
C'est à cause de ça qu'on a c'est interdit de faire le change.
Le change, oui, c'est ça. Oui. De... La couronne islandaise avec les autres monnaies. Oui.
Donc, si tu voyages à l'étranger, il faut montrer ton...
Il faut payer en couronne islandaise.
Non, Ef þú ætlar að ná í gjaldir á Íslandi, þá verður þú að sýna að þú eigir flugmiða til að fá gjaldirinn.
Afin d'obtenir de la monnaie islandaise, il faut montrer qu'on a un billet d'avion afin de prouver...
Svo þetta er svona... allt er svona fast og gamaldags og svona öðruvís en það var.
Tout est... On est revenu à une économie un peu vieux jeu et un peu lourde. Plus rien n'est comme avant la crise.
Voilà, mais il y a eu aussi quand même des changements politiques importants à la suite de cette crise, du mouvement. Il y a eu des changements dans la Constitution, il y a eu une autre organisation de la vie politique.
Oui, pour la première fois, nous avons élu les partis à gauche.
Oui, c'est ça. Il y a eu une sorte d'union, d'alliance des partis de gauche. Oui. Voilà, c'est ça.
Ils ont formé
le
gouvernement. C'était la première fois dans notre histoire. Et puis, ils étaient là pendant 4 ans. Et ils ont fait un bon travail, on peut dire ça. Et puis, on a eu une élection au printemps dernier.
Oui.
Et là, on a élu les partis droite.
Voilà, c'est ça.
Donc, on a réélu les gens qui sont responsables de la crise.
Voilà, mais je pense que les Islandais ont quand même une mémoire. Hein, les gens se souviennent des choses. Et je pense que les choses sont un peu différentes aujourd'hui qu'elles pouvaient l'être avant. Parce qu'avant, il y avait quand même beaucoup d'illusions et de méconnaissances des fonctionnements de l'économie. Hein, puisque, pour aller vite, il y a eu un développement vraiment de la spéculation très important. Il y a eu beaucoup d'emprunts et d'achats à crédit qui ont été faits par les gens. Et quand l'économie s'est effondrée, la monnaie a été dévaluée de moitié, la couronne islandaise. Et à la suite de ça, beaucoup de gens qui avaient acheté à crédit ont dû vendre leur maison ou leur voiture. Hein. Alors, en revanche, il y a eu un grand débat politique. Et dans ce grand débat politique, ce sont les Islandais qui se sont prononcés par référendum. Hein, qu'il y a eu un référendum pour savoir comment est-ce qu'on devait sortir de cette situation. Et ce qui a quand même été choisi, c'était de conserver comme secteur prioritaire la santé et l'éducation. Alors même s'il y a eu des conséquences dans ces domaines-là aussi, le système est moins performant qu'il pouvait l'être, mais tout ce qui pouvait représenter les notions, tout ce qui pouvait être associé à la solidarité de la nation a été préservé. Hein, il était hors de question de toucher à la santé et à l'éducation.
Et donc,
Et à la culture. Donc, ils ont, de ce point de vue-là, limité les dégâts. Et surtout, ils ont permis peut-être aux citoyens islandais de conserver des valeurs à ses yeux essentielles.
Oui, exactement. Mais, og ríkisstjórnin, þessi vinstri stjórn, hún ákvað að skerða ekki framlög til menningar.
Le gouvernement de gauche a décidé de ne pas faire de coupe dans le budget culturel.
Þver öfugt við það sem venjulega gert þegar að þjóðir lenda í svona vandræðum eins og núna Spán og Ítalía.
Ce qui est contraire à ce que font d'habitude les pays lorsqu'ils font face à une crise de cette ampleur, comme on le voit en Espagne ou en Italie maintenant. Donc on a mis plus d'argent pour soutenir les arts et la culture. Car les gens devaient se rapporter à quelque chose pour conserver leur fierté d'être islandais.
Og þetta hefur verið svona nokkuð góður tími fyrir bókmyndir, listir, svona frá hruni, bara nokkuð gott, sko.
Donc depuis la crise, ça a été une plutôt bonne période pour les arts, la littérature, la culture en général.
En það nú oft þannig að á krepputímum þá blómstra listirnar.
Mais c'est souvent le cas, en temps de crise, les arts se développent et florissent.
Og svo hefur við náttúrulega alltaf eitthvað til að skrifa því að þetta hrun var svona sögulegu viðburður sem við getum mögulega unnið meira úr seinna meir.
Il y a toujours quelque chose sur lequel écrire, c'est un sujet très important, une bonne source d'inspiration.
Og þetta var líka svona mjög dramatísku viðburður í íslenskri sögu, svona mjög söguleg stund.
C'était un événement historique dans notre histoire.
Og við segjum alltaf fyrir eða eftir hrun.
On parle à présent de période avant la crise et après la crise.
Af því að allt breyttist við hrunið.
Car tout a changé avec cette crise.
Il y a eu aussi l'arrivée de nouveaux personnels politiques. Il y a eu de nouveaux hommes et femmes politiques qui ont surgi de cette crise. Et est-ce que aujourd'hui, ce renouvellement continue du personnel politique, ou est-ce qu'on est revenu avec les partis plus traditionnels?
Já, og til dæmis Jón Gnarr, borgarstjóri Reykjavíkur, þetta var svona trúður sem kom fram og bauð sig fram til borgarstjóra og vann kosningarnar.
Oui, par exemple, il y a Jón Gnarr, le maire de Reykjavík, qui était comédien et qui s'est présenté aux élections et qui les a gagnés.
En núna ætlar hann að hætta.
Mais à présent, il a décidé d'arrêter.
Þannig að maður hefur svona tilfinningu allt sé að falla aftur í svona gamla traditionnelle farið.
On a donc l'impression qu'on retombe dans des habitudes anciennes.
Ég held það sé líka vegna þess að fólk ekki búið að gleyma hverju voru ábyrgir fyrir hruninu.
Je crois que c'est aussi parce que les gens n'ont pas oublié qui étaient les responsables de la crise.
En fólk búið að fá nóg af tali krísuna, það vill bara halda áfram og gleyma hruninu.
Mais les gens ont assez d'entendre parler de cette crise et veulent simplement aller de l'avant et oublier ce qui s'est passé.
En svo eru líka aðrir sem eru ennþá bara mjög reiðir.
Mais certains sont encore très très en colère.
Og Ísland búið að vera svona ríki reiðinar í 5 ár.
Et depuis 5 ans, c'est un état de fureur en Islande.
Og allir alltaf á Facebook og alltaf bara tala, brjálaðir við öllu.
Tout le monde se défoule sur Facebook à commenter, à faire des critiques.
Þetta er orðið svona einum of mikill, að maður sér að fólk bara á netinu, það fylgist með fréttum og svo ferða á sjálft og Facebook og segir, þessi skandal, þetta alveg hræðilegt anskotin af það.
C'est devenu un petit peu trop justement. Les gens regardent les infos et filent aussitôt sur Facebook pour aller commenter. Putain, ça m'énerve. Qu'est-ce que c'est que ce délire?
Þetta svolítið eintón og monotón. Svona getum ekki haldið áfram endalaust.
Il y a un côté monotone et désespéré. On peut continuer comme ça à l'infini.
Jafnvel þó að fólk hafi rétt fyrir sér.
Bien que les gens aient tout à fait raison.
Mais ce réveil citoyen, je crois, il est bien illustré par le maire de Reykjavik, donc qui était comédien, parce que je crois que son point fort, c'était la transparence et associer les gens, on appellerait aujourd'hui ça chez nous, démocratie participative, en gros, associer les habitants de la ville au règlement de leurs problèmes. C'est-à-dire que quand il y a un problème qui se pose, il réunit les habitants du quartier concerné et il met en face d'eux des experts ou des spécialistes et il dit maintenant une solution doit sortir de cette salle, trouver ensemble la solution. Et ça, je crois que c'est une démarche qui est un peu nouvelle, mais qui fait son chemin dans la tête. Parce qu'il faut quand même rappeler que Reykjavik, c'est les deux tiers de la population de l'Islande. Hein, donc ce qui se passe à Reykjavik, c'est quand même quelque chose d'important. Hein, c'est... Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.